Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La santé urbaine, une problématique internationale. Dans un monde où les villes enflent, se densifient, sans que cette croissance ne soit toujours ni anticipée ni harmonisée. Cette croissance urbaine génère partout sur la planète un faisceau commun de problèmes sanitaires, qu'ils soient liés à la pollution, à la gestion de l'eau, à l'intensification des facteurs de stress ou à l'impact de la densité sur le plan épidémique. La question qui se pose aujourd'hui est de comprendre ces différents enjeux pour la santé urbaine lorsqu'ils sont associés aux obstacles propres au développement. C'est bien là le défi pour les villes du Sud. Concilier ces concentrations humaines qui entraînent des changements d'habitudes de vie à un environnement dénué souvent de structures adaptées. Des villes dont les centres de soins, hôpitaux, mais aussi tradis praticiens s'organisent pour prendre en charge des troubles multiples, des besoins complexes à évaluer, les maladies non transmissibles, les atteintes liées aux accidents et bien sûr les pathologies infectieuses dont le milieu urbain redéfinit les contours de la contamination humaine et animale. Des villes dont les habitants nouvellement installés peuvent se retrouver en grande fragilité financière, en rupture affective et sociale, sans pouvoir s'appuyer sur le soutien communautaire. La santé urbaine, un défi pour les villes du Sud. Une émission enregistrée à Marseille où se tient jusqu'à vendredi la 24e édition des actualités du Pharo, organisée par le groupe d'intervention en santé publique et en épidémiologie. Services de soins, pathologies spécifiques, contagion en milieu urbain, évaluation des besoins et suivi des épidémies, des thématiques que l'on va aborder avec nos quatre invités présents autour de cette table. Florence Fournet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en entomologie médicale à l'Institut de recherche pour le développement. Docteur Ousmane Li, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert international en santé numérique, consultant pour l'ONG PASS, organisation basée à Seattle aux États-Unis, également à Kinshasa en République démocratique du Congo. Organisation qui mène des programmes internationaux en faveur de l'accès aux soins. Gauthier Daubigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'IRD biologiste au Centre de biologie pour la gestion des populations de Montpellier, affecté en ce moment à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi au Bénin. Et puis avec nous aussi Gérard Salem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, également professeur invité à l'Université de Berkeley en Californie.
Priorité santé sur RFI.
Alors Gérard Salem, on va parler des villes du Sud, hein, ces questions de santé pour ces villes au-delà de la Méditerranée, qui se trouvent à moins de 5 km de distance de la pièce où nous nous trouvons, des villes qui n'ont pas connu une croissance identique. L'urbanisation n'est pas la même que celle des villes du Nord. Est-ce qu'on peut dire d'emblée, Gérard Salem, que l'histoire de ces villes va différencier l'approche que l'on a à la santé, justement, dans ces différents territoires?
La réponse est oui. Le processus d'urbanisation qu'a connu l'Afrique est à la fois récent et extraordinairement brutal. Et il est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité et pour le coup introduit un certain nombre de questions sanitaires tout à fait originales. Ce qui est très frappant, c'est que ce processus d'urbanisation n'a pas été anticipé par les spécialistes de la santé. Juste pour en donner un exemple, pendant la conférence d'Alma-Ata consacrée aux soins de santé primaire, les mots « ville » et « citadin » n'étaient même pas dans les textes.
C'était en quelle année ?
1972,
récemment.
Alors que le processus d'urbanisation était largement enclenché. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur les questions de santé dans les villes et on manifeste toujours un peu la même paresse intellectuelle, c'est-à-dire d'imaginer qu'il se passe en Afrique de façon accélérée ce que les pays du Nord ont connu il y a quelques siècles. Or, c'est un processus tout à fait original.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore l'image d'une Afrique rurale ou c'est simplement qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer?
Alors, on a l'image d'une Afrique rurale, ce qu'elle reste encore majoritairement encore pour quelques années. Donc, au niveau mondial, en 2007, personne ne sait exactement quand, la population mondiale est devenue majoritairement urbaine. Pour la première fois, les courbes de population rurale et de population urbaine se sont croisées et elles ne se recroiseront jamais. En Afrique, c'est la même chose. On dit, les projections varient selon les démographes, mais qu'en 2030, on sera plus de 50% de population urbanisée en Afrique, mais avec de grandes disparités entre l'Afrique australe, l'Afrique orientale, l'Afrique occidentale.
On peut dire qu'il y a plusieurs villes, Gérard Salem, des villes au pluriel, même des capitales, qui ont des configurations complètement différentes. Des immeubles, il n'y en a pas partout dans toutes les villes d'Afrique, même dans les capitales.
Il y a à la fois une très grande diversité de villes en Afrique, mais surtout il y a des villes dans la ville, parce que ce qui frappe particulièrement en Afrique, c'est l'extraordinaire disparité d'un quartier à l'autre, qui fait qu'un taux moyen de mortalité ou un taux moyen de telle ou telle maladie n'a absolument aucune signification, puisque les inégalités à l'intérieur de la ville sont plus importantes que les inégalités qu'on peut observer bien souvent entre la ville et la campagne.
Quand on parle d'urbanisation sauvage ou non maîtrisée, il y a cette fameuse question de la densité, problème d'infrastructure aussi, spécificité sanitaire liée aux maladies émergentes en zone tropicale. Docteur Ousmane Ly, tout à l'heure avec vous, on va parler plus longuement d'un projet que vous menez en République démocratique du Congo en lien avec Ebola, expertise dans le domaine du numérique. Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette menace épidémique en milieu urbain, qui dit beaucoup de monde, dit contagion plus facile. Il y a eu l'an dernier la peste pulmonaire dans la capitale malgache, Antananarive. Au mois de mai, un cas de maladie à virus Ebola, Mbandaka, ville congolaise d'un million d'habitants, située sur le nœud du fleuve Congo. Est-ce que cette menace épidémique en milieu urbain, c'est réel ou c'est quelque chose de fantasmé, d'exagéré, notamment au nord, docteur Ousmane Ly, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte? C'est une véritable urgence.
Oui, ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité que les épidémies vont se déclarer dans les villes si nous ne faisons pas attention. Parce que la ville est le point de convergence de beaucoup de choses qui se passent dans les zones rurales. Aujourd'hui, beaucoup de populations des zones rurales émigrent vers les villes et s'établissent là-bas. Et il y a les échanges entre les zones rurales et les villes en termes d'échanges pour les produits agricoles, par exemple. Pas que seulement les produits agricoles, il y a des pays où encore on mange du gibier, et tel est le cas du Congo, et ça va quitter les zones rurales pour les villes, et vient avec les virus, et c'est le cas de Ebola, et ça s'est passé à Mbandaka, et c'était très risqué pour la ville de Mbandaka elle-même, mais aussi pour la ville de Kinshasa, qui, par le fleuve Congo, était très proche en termes de transmission de la maladie de l'épicentre. Et de l'autre côté, Kinshasa étant une capitale africaine bien fréquentée, alors être à un jour de n'importe quelle capitale du monde, donc pouvoir transmettre le virus de par le monde.
Une question similaire qui s'adresse à vous, Gauthier Daubigny, spécialiste des rongeurs sur ce cadre urbain. Est-ce que la ville, c'est un pays de cocagne pour une famille de rats?
Alors oui, effectivement, les rongeurs trouvent le gîte et le couvert dans les villes du nord comme du sud, particulièrement dans les vastes zones informelles, souvent très précaires et très insalubres des villes du sud et des villes africaines, où on observe en fait de très fortes abondances de rongeurs qui vivent en étroite promiscuité avec des populations humaines elles aussi très denses. Donc là, il y a la possibilité, le risque important d'une circulation de pathogènes véhiculés par les rongeurs et de transmission à l'homme, avec pour certains pathogènes la possibilité que derrière surviennent des relais homme-homme, comme c'est le cas de la peste par exemple, qui passe du rongeur à l'homme puis qui peut dégénérer en des formes qui se transmettent de personne à personne. Vous parliez de Madagascar tout à l'heure. Il existe aussi des, comme par exemple la fièvre de Lassa, qui peut passer du rongeur à l'homme et qui se transmet probablement facilement ensuite d'homme à homme. Donc ces villes qui sont effectivement des carrefours d'échange, donc des carrefours d'introduction de rongeurs et donc de pathogènes associés aux rongeurs potentiellement, sont aussi des zones d'interface très importantes entre les rongeurs et l'homme, donc risque d'émergence et d'épidémie.
Alors avec des configurations géographiques différentes, vous avez travaillé au Niger, pays enclavé, aujourd'hui vous êtes au Bénin, le grand port de Cotonou. Est-ce que justement, en fonction de cette géographie des villes, on aborde différemment, bien sûr, les questions de santé, mais dans votre cas particulier, celui des bêtes comme les rongeurs, vecteurs de maladies?
Tout à fait. Alors, pour les rongeurs sont intéressants en ce sens qu'ils sont souvent des bons marqueurs de l'histoire humaine, du moins les rongeurs qui accompagnent l'homme dans ses déplacements et ses transports, qu'ils soient maritimes, fluviaux ou routiers. Si vous voulez, en Afrique plus particulièrement, et vous citez le cas de Cotonou et de Niamey, vous avez des espèces de rongeurs qui vivent à proximité des gens qui sont très différentes, donc qui sont susceptibles de véhiculer et de leur transmettre des pathogènes très différents. Sur les villes côtières, en Afrique en général, vous avez affaire à des rongeurs qui viennent originellement d'Asie, mais qui ont envahi le monde entier, les rats et les souris qu'on connaît bien dans le Nord, que les cités américaines connaissent également très bien, que les villes d'Afrique apprennent à connaître, malheureusement, puisque, en fait, ces rongeurs sont arrivés plus tardivement. Si vous voulez, l'expansion européenne qui a amené ces rongeurs s'est d'abord faite sur les côtes en Afrique, alors que sur, en Amérique, par exemple, on a eu des peuplements à l'intérieur du continent qui ont été plus précoces. En Afrique, cette pénétration à l'intérieur du continent africain s'est faite plus tardivement. Et donc le développement des transports s'est fait plus tardivement également. Et l'arrivée de ces rongeurs invasifs, rats et souris, est en cours en fait en Afrique. Donc si vous voulez, pour reprendre vos deux exemples, à Cotonou, vous avez une majorité de rats noirs, hein, qui est un rat qui est à peu près partout sur la planète maintenant. Alors qu'à Niamey, les maisons des habitants sont envahies par le rat mamelle multiple, le Mastomys natalensis, le réservoir de la fièvre de Lassa, qui lui est d'origine totalement africaine.
Donc cette configuration va aussi déterminer le type de pathologie présente dans tel ou tel lieu.
Alors voilà, selon les associations d'espèces en présence, vous allez avoir la possibilité de faire circuler des pathogènes différents.
Gauthier Daubigny, dernière précision sur ces rats, on va en reparler tout à l'heure. En France, on dit souvent « rat d'égout ». En Afrique, ce ne sont pas des rats d'égout.
Alors oui, il y a beaucoup d'expressions pour désigner les rats, hein, les rats d'égout, les rats des bateaux, les rats d'étoiles, les surmulots, les rats noirs, je pourrais vous en citer quelques-uns comme ça. L'expression rat d'égout est intéressante en ce sens que dans les villes du Nord, on a souvent, pas toujours mais très souvent affaire à des réseaux d'assainissement qui sont enterrés. J'ai en tête les fameux égouts parisiens par exemple, où prolifèrent des millions de rats, on en a entendu parler récemment dans la presse française. Mais il se trouve que dans les villes africaines, très souvent, ces réseaux d'assainissement sont souvent malheureusement peu développés, voire inexistants dans certaines zones informelles. Du coup, les rats et les souris, alors rats au sens générique, hein, il y a plusieurs espèces, comme je vous le disais tout à l'heure, vivent au même étage que les hommes. Donc ils sont tout aussi nombreux, mais ils vivent dans leur maison et pas à l'étage d'en dessous.
Je me tourne vers vous maintenant, Florence Fournet, entomologue médicale, autrement dit étude des insectes et autres petites bêtes responsables de maladies. Il n'y a pas uniquement des moustiques, mais on pense forcément aux moustiques, hein, l'espèce animale la plus meurtrière au monde. Est-ce que moustiques et villes font bon ménage?
Alors oui, en tout cas on le constate évidemment. Avec peut-être des différences entre, par exemple, le vecteur de la dengue, qui était connu pour être un moustique urbain, entre guillemets, très inféodé à l'homme, et le paludisme, qu'on a cru longtemps plutôt être une maladie du milieu rural. On pensait que l'urbanisation, en quelque sorte, viendrait à bout de cette pathologie.
Pourquoi précisément on pensait qu'en ville, le moustique aurait plus de mal à résister, à proliférer ?
Parce que le vecteur du paludisme, donc l'anophèle, était connu pour être un moustique très sensible à toutes les pollutions. Donc urbanisation, pollution, l'association était telle qu'on n'imaginait pas que ce moustique allait réussir à survivre.
Hélas, il a résisté.
Et il s'est très bien adapté, enfin il s'adapte en tout cas de mieux en mieux au milieu urbain. Et donc le paludisme urbain est une vraie réalité.
Alors on a parlé des différentes maladies liées à ces animaux, dengue, paludisme, avec vous tout à l'heure, Gauthier Daubigny, fièvre de Lassa. Est-ce que dans les stratégies de lutte, quand on est en ville, on communique, on travaille de façon différente? Florence Fournet, pour le paludisme, on pense bien sûr à l'élimination des eaux stagnantes pour la prolifération des moustiques. Sur ces sujets en milieu urbain, comment on travaille?
Je dirais qu'on travaille pas forcément différemment du milieu rural. Les consignes, entre guillemets, doivent être les mêmes. Pour le paludisme, dormir sous moustiquaire, essayer de recourir au système de soins quand on sent les signes d'un paludisme. Donc les consignes sont pas véritablement les mêmes. Par contre, quand on est en milieu urbain, on a l'idée que on pourrait plus facilement peut-être circonscrire ce qui s'y passe en menant des politiques adaptées sur l'idée que on ne doit pas faire une ville sans parler de santé et on ne doit pas faire de la santé sans parler d'aménagement urbain.
Même question sur les stratégies de lutte contre les rongeurs en milieu urbain. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qui se passe en milieu rural quand on est en ville? Il y a une communication aux populations, il y a des mesures de prévention. Les autorités locales, qu'est-ce qu'elles font pour prévenir justement non seulement de cette prolifération qui est gênante quand on habite quelque part, mais aussi parce que c'est dangereux pour la santé?
C'est un peu compliqué en ville, du moins dans les villes africaines. Ce sont des problèmes qui étaient, à l'époque de la colonisation, qui étaient pris en charge par les services d'hygiène. Je pense à la ville de Dakar, par exemple, qui a connu des grandes épidémies de peste entre 1914 et 1945, et avait des services dédiés qui pouvaient recruter allègrement de la main-d'œuvre, et où ils ont éliminé chaque année 250 000 rats. Aujourd'hui, ces services n'existent plus, ou alors n'ont plus de toute façon les moyens de leurs actions. Il faut bien admettre aussi qu'il y a énormément d'autres priorités de développement auxquelles doivent faire face les autorités. Donc ça passe un peu à la trappe. Du coup, les actions sont très peu organisées dans les pays africains, notamment dans les villes. Et on peut d'ailleurs quasiment pas s'appuyer sur des législations. Par exemple, vous avez en France une législation qui impose aux propriétaires et aux locataires de réagir en cas d'infestation par les rongeurs. En Afrique, rien de tout cela, ou alors c'est absolument passé en mode silence. Si vous voulez, les recommandations seraient les mêmes que celles qu'on fait en général en milieu rural, hein, c'est aménagement de l'environnement, protection des stocks alimentaires pour éviter d'attirer les rongeurs. Mais là, on a affaire à des grandes populations, souvent peu éduquées, difficiles d'accès. Les villes sont souvent des associations socioculturelles assez disparates, donc on a du mal aussi à trouver des personnes ressources qui fassent l'interfaçage avec les populations. Je dois admettre qu'on est assez démunis pour la prévention et la lutte contre les rongeurs en ville.
Alors Gérard Salem, cette dimension d'information, prévention, avant d'aborder la question de la prise en charge, est-ce qu'on doit justement agir différemment? On parlait à l'instant des autorités qui peuvent se trouver un petit peu dépassées face à l'ampleur de la tâche. Comment justement penser en amont toutes ces problématiques? Là on est sur du concret, on visualise bien quand on parle d'animaux, quand on parle d'insectes, mais c'est peut-être plus complexe encore quand on parle de contagion, d'autres pathologies. Comment faire justement pour une sensibilisation des populations?
Alors sensibilisation des populations, ce que dit Gauthier Debigny est tout à fait exact, c'est-à-dire que les villes sont un patchwork culturel de gens déracinés. Et bien souvent, on veut promouvoir des actions de santé communautaire quand bien même il n'y aurait pas de communauté constituée. Du point de vue de la prévention, je crois qu'il faudrait surtout pas penser que les problèmes qu'on aborde sont spécifiques de l'Afrique. En fait, on souffre d'un double manque de culture. Il est possible, dans la plupart des universités du Nord comme du Sud, d'étudier les villes, la planification urbaine, sans avoir un seul mot sur la santé. Et réciproquement, il est possible de faire des études de médecine, de sciences vétérinaires, d'épidémiologie, sans avoir aucune préoccupation sur les spécificités urbaines. Comme si, par exemple, du point de vue de l'organisation du système de soins ou de l'étude épidémiologique de telle ou telle maladie, il suffisait de reproduire ce qu'on fait en milieu rural. Donc c'est cette interface qu'il faut construire entre dynamique urbaine et changement sanitaire, et essayer de promouvoir ce qu'on est un certain nombre à essayer de défendre depuis quelques années, qui est le thème de la santé dans toutes les politiques urbaines. C'est-à-dire dès lors qu'on prend une décision en matière de politique urbaine, des transports, des zones d'emploi, etc., d'anticiper les conséquences favorables et défavorables sur la santé. Or, c'est un exercice qu'on a beaucoup de mal à faire. Et dans notre système universitaire en France en particulier, ce n'est pas vrai de la même façon, je dirais, aux États-Unis, nous n'avons pas ces formations pluridisciplinaires qui permettraient le dialogue entre les spécialistes de la ville et les spécialistes de la santé.
Mais c'est un paradoxe que vous soulevez, parce que vous dites qu'il n'y a pas en gros de politique urbanistique en Afrique, pas de politique de la ville. Comment calquer une politique de santé sur une politique qui n'existe pas?
Il y a des politiques urbaines en Afrique, on en pense qu'on en veut, mais il existe un certain nombre de politiques urbaines. Ce que je veux souligner, c'est que dans ces politiques urbaines, le volet sanitaire n'est pas pris en compte de façon explicite, et réciproquement dans les politiques de santé, qui peuvent se développer tant en milieu rural qu'en milieu urbain, on ne tient pas compte des spécificités du milieu urbain. Par exemple, pour l'organisation du système de soins, on considère que on peut reproduire en milieu urbain un type d'organisation des soins identique à celle qu'on développe en milieu rural. Or, tout s'y oppose.
Pourtant, aujourd'hui, dans les villes africaines, Gérard Salem, c'est là qu'on trouve les grands centres hospitaliers qu'on ne trouve pas forcément en milieu rural. Et on a justement l'habitude d'opposer le maillage territorial largement insuffisant dans les campagnes par rapport à ce qu'on retrouve dans les capitales où sont concentrés les quelques grands CHU.
Il est sûr que la densité de l'offre de soins en milieu urbain est bien supérieure qu'en milieu rural. Il est aussi beaucoup plus divers. Il y a à la fois les hôpitaux, un secteur public, un secteur privé. Et donc, on a pensé que la diversité, la densité de cette offre de soins allait faciliter l'accès. C'est vrai que rien n'est loin en ville. Mais rien n'est loin d'un point de vue géographique. Mais pour ce qui est de l'accessibilité sociale, économique ou culturelle, vous pouvez avoir une offre de soins très proche. Si vous n'avez pas les moyens financiers pour y accéder, évidemment, vous n'y irez pas. Et parallèlement, il faut souligner qu'il y a une complexité beaucoup plus grande du système de soins, puisque se développe simultanément en milieu urbain une médecine, entre guillemets, traditionnelle, qui s'invente tous les jours, qui répond notamment aux impasses de la médecine moderne, par exemple sur les maladies chroniques. Il y a une influence grandissante de la médecine chinoise, des médecines chinoises, devrait-on dire, une influence grandissante de tout ce qu'on trouve, par exemple, sur Internet, sur les trafics de médicaments, etc. Donc, ce côté florissant du système de soins en milieu urbain ne garantit en aucun cas un meilleur suivi des populations.
La grande offre ne fait pas la qualité de l'offre.
Certainement pas, et la proximité de l'offre ne fait pas l'accès aux soins, de même que le soin ne fait pas la santé.
Docteur Ousmane Lee, vous voulez réagir ?
Oui, je voudrais réagir pour dire que ce n'est pas du tout exact de dire qu'il n'y a pas de politique urbaine en Afrique. Le pays d'où je viens, le Mali, on a bien des politiques urbaines. Il y a un plan d'aménagement de la ville de Bamako, un plan d'aménagement de la ville de Ségou, un plan d'aménagement de la ville de Tombouctou. Mais est-ce que ce plan d'aménagement suit l'évolution de la démographie urbaine qui se met en place? C'est là où on doit regarder. Et je suis parfaitement d'accord que dans les universités, surtout de médecine, on ne nous parle pas pendant nos études de plan d'aménagement urbain, de leur impact sur les maladies. Ça, c'est une réalité. Et c'est bien que ça puisse apparaître dans les cursus de formation rapidement et de manière pluridisciplinaire. Sans oublier aussi que les périodes d'ajustement structurel ont appauvri les services publics dans nos pays. Ce sont ces conséquences que nous sommes en train de vivre actuellement. Quand on le faisait il y a des années, on n'avait pas vu que quand il n'y aura plus de services d'hygiène, qu'il y aura une prolifération des vecteurs. Aujourd'hui, on a les conséquences, il va devoir qu'on les gère.
Alors, plan d'aménagement, mais si ce plan d'aménagement, comme vous le soulignez, n'est absolument pas appliqué, si ça reste purement théorique, c'est un petit peu comme des promesses électorales, ça n'engage que ceux qui les tiennent. Finalement, c'est la population qui se retrouve au milieu d'une situation qui est incontrôlable, notamment sur le plan sanitaire. Dans ces plans d'aménagement, il y a des hôpitaux, il y a un maillage, des infrastructures de santé?
Oui, tout à fait.
Théorique ou qui est appliqué après par la suite?
Oui, dans certains cas, c'est bien appliqué, mais la question qui va se poser, ça va être l'insuffisance de moyens, parce que nous avons un problème d'investissement initial dans nos pays. Quand on regarde les interventions des partenaires, un certain nombre de bailleurs de fonds qui n'agissent que sur des programmes verticaux et qui achètent plutôt des résultats immédiats.
Ça veut dire, par exemple, intervenir en achetant des médicaments pour des maladies infectieuses. On délivre ces médicaments, mais à côté de ça, on n'installe pas des hôpitaux, on n'installe pas des structures de soins, on ne va pas pérenniser l'offre de santé.
Oui, tout à fait. Quand vous achetez des médicaments et que vous ne réfléchissez pas sur la logistique, la permanence des stocks après. Donc oui, vous avez acheté des médicaments anti-malaria, vous avez donné, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Donc on ne réfléchit pas à ça parce que les programmes verticaux ne pensent qu'à leurs résultats immédiats qu'ils peuvent vendre ailleurs. Et ça amène même ce qu'on appelle des déstructurations de nos systèmes de santé. On a vu dans les pays où les médecins disent que je suis médecin malaria. Donc quand quelqu'un vient avec une autre pathologie, il ne le soigne pas parce qu'il est médecin paludisme, parce qu'il va avoir des incitatifs en soignant ceux qui font le paludisme. Or, un médecin, il est formé pour prendre la personne humaine dans sa globalité, pas juste pour prendre un cas ou une maladie, que ce soit la santé mentale, la santé physique ou les maladies infectieuses. Mais ça, on est en train de le perdre parce qu'il y a des programmes verticaux qui vont s'intéresser au paludisme, au sida ou à la tuberculose pour les éliminer, mais et les autres. On oublie les autres. C'est la raison pour laquelle quand on regarde les pays d'Afrique de l'Ouest, quand Ebola est apparu, les systèmes de santé n'étaient pas forts. On a eu du mal à y faire face et il y a eu 11 000 décès. Il faut qu'on travaille à ce que ces risques n'apparaissent plus dans nos mondes.
Gérard Salem, vous vouliez réagir?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous dit le docteur Lee. En matière d'organisation du système de soins, par exemple, on calque une organisation en district sanitaire et on met en place un système qu'on appelle du nom barbare de système de référence, c'est-à-dire du poste de santé jusqu'au centre de santé ou à l'hôpital, selon l'état de gravité du malade, le patient devrait suivre un itinéraire. Mais ça s'oppose au mode de fonctionnement dans les villes. Ces districts sanitaires sont purement virtuels, sont dans l'imagination des planificateurs, et les gens iront consulter en fonction de leur réseau d'interconnaissance, en fonction de leur perception de la qualité des soins, etc. Donc il y a vraiment toute cette réflexion à mener, d'autant, j'insiste sur ce point, que à côté du système public, il existe un système privé, il existe un système traditionnel, il existe un système chinois, il y a des églises évangéliques qui se développent ici ou là, qui ont aussi cette offre de soins. Donc on a des parcours de soins très erratiques, ce qu'on appelle le nomadisme thérapeutique, qui a par exemple ses conséquences sur la tuberculose. On consulte et on consomme quelques soins là et ainsi de suite. Et puis, on va ici ou là. La question plus fondamentale, c'est celle qu'indiquait le docteur Lee tout de suite, c'est cette concurrence qu'il y a aussi sur le contrôle de l'activité du système de soins, des programmes verticaux et surtout une logique qui est toujours une logique de l'offre et de la demande. Or, la question n'est pas celle de l'offre et de la demande, la question elle est celle de l'offre et des besoins. la demande peut être très décalée des besoins. Une population peut demander des choses qui ne constituent pas des priorités. Or, il faudrait, pour bien évaluer le système de soins, voir quelle est la satisfaction des besoins, ce qu'on ne fait absolument pas en Afrique actuellement. Pas plus d'ailleurs en France que dans la plupart des autres pays développés. Pour caricaturer, si vous voulez, quand je vais dans un quartier et que je vois que le centre de santé ne diagnostique aucune diarrhée infantile, je pourrais dire c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de diarrhée infantile. Personnellement, je m'inquiète, ça veut dire que le système de soins ne fonctionne pas. Donc plutôt que de prendre l'activité du système de soins, le nombre de patients, le profil démographique de la population consultante, comme un indicateur du bon fonctionnement du système de soins, on ferait mieux de comparer l'activité observée à l'activité attendue. On devrait avoir tant de diarrhées infantiles dans tel quartier. Si on n'atteint pas ce chiffre, c'est que le système de soins ne fonctionne pas bien.
Ça veut dire que les malades ne sont pas pris en charge.
Absolument.
On va marquer une pause avant de se retrouver, toujours pour parler de santé urbaine dans Priorité Santé.
RFI à Conakry, 89.9 FM. Bamako, 98.5 FM. Priorité Santé sur RFI.
Le défi de la santé pour les villes du Sud. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale habite en ville. Cette proportion devrait atteindre 70% dans une trentaine d'années. Bouleversement lourd d'enjeux sur le plan sanitaire, surtout dans des régions où ces bouleversements ne sont le plus souvent pas accompagnés de façon correcte, du moins par les pouvoirs publics. Nous sommes toujours à Marseille en compagnie de nos quatre invités venus participer à la 24e édition des actualités du Pharo. On vous retrouve, Florence Fournet, chercheure en entomologie médicale à l'IRD, Gauthier Daubigny, chargé de recherche, vous aussi à l'IRD, affecté en ce moment à l'école polytechnique d'Amoumé Kalavi au Bénin, Dr Ousmane Li, expert en santé numérique, et Gérard Salem, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Gérard Salem, un point qu'on n'a pas abordé avec vous jusqu'à maintenant, on parlait du développement parfois très intense de ces villes, multiplication des atteintes corporelles, des blessures, c'est vrai qu'on pense souvent à la contagion, voire même aux animaux qui peuvent proliférer en ville, mais il y a cette morbidité liée aux accidents sur la voie publique, également dans la sphère domestique, tout cela n'est pas forcément anticipé. On parlait tout à l'heure du fait de quitter la communauté, quitter la maison, changer de maison, ça change les choses.
Alors c'est un bouleversement des modes de vie, des modes alimentaires par exemple. On sait qu'en milieu urbain, on va consommer davantage de graisse, davantage de sucre, davantage de sel, qu'on aura peut-être un petit peu moins d'exercice physique, et donc les conséquences importantes du point de vue des maladies chroniques et dégénératives. Mais plus globalement, c'est aussi un bouleversement dans les règles familiales, dans les relations hommes-femmes, qui vont occasionner des bouleversements dans les relations intergénérationnelles, dans les règles de solidarité. Ce bouleversement a des répercussions sanitaires très importantes. Les questions que vous évoquez de santé mentale, par exemple, constituent un problème important, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de santé mentale dans les zones rurales, mais ils s'en trouvent modifiés en milieu urbain, notamment pour les raisons que je donnais, mais aussi pour des raisons de toxicomanie. Et plus globalement sur des questions de violence, par exemple, il y a un sujet qui est trop peu étudié. Des recherches ont été menées par exemple, Daouda Cassier et puis Emmanuel Bonnet sur les accidents de la route, où on voit bien, quand on établit une cartographie des accidents de la route, que ces accidents interviennent dans les lieux où la ville a été mal aménagée. Et malheureusement, on est très mal informé sur la qualité de la prise en charge de ces accidentés et ce que deviennent ensuite ces accidentés. C'est un problème absolument essentiel.
Tout à l'heure, vous parliez justement des changements qui concernent l'hygiène de vie, les habitudes du quotidien, la sédentarité aussi en ville. On bouge moins, on est moins à l'air libre. Changement de régime alimentaire, ce qui nous amène donc à parler de ces pathologies non transmissibles. Est-ce qu'on a des données justement pour les villes africaines sur ce qui change, sur ces maladies qui hier existaient moins et aujourd'hui sont vraiment importantes dans certaines régions d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest en particulier?
Des données, on en a quelques-unes, insuffisamment, bien sûr, dirait le chercheur. Mais ce qui est très frappant, le début de l'entretien que nous avons eu portait sur les maladies transmissibles par des maladies vectorielles, des rongeurs, Ebola, des zoonoses, etc. Et maintenant, on parle des maladies chroniques et dégénératives. Je parlais en début d'émission de notre paresse intellectuelle. Dans nos paresses intellectuelles, il y a le fameux modèle de transition épidémiologique. C'est un modèle qui voudrait que, un peu sur ce qu'on a connu dans les pays du Nord, petit à petit, on quitte les maladies infectieuses et parasitaires pour aller inéluctablement vers des maladies chroniques et dégénératives. Ce qu'on observe dans les villes africaines, c'est pas du tout ça. C'est un cumul de pathologies infectieuses et parasitaires avec des pathologies chroniques. Et on pourrait penser que ces pathologies chroniques comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires toucheraient les riches des pays pauvres, mais non, ce sont aussi les pauvres des pays pauvres qui sont donc doublement affectés, notamment pour les enfants, par des pathologies infectieuses et parasitaires, et les adultes par des pathologies chroniques et dégénératives. Et la mise en place d'un système de recouvrement des coûts liés à ces épisodes morbides, par exemple pour des maladies chroniques, ne peut évidemment pas être tout à fait le même pour une hypertension qu'on va garder toute sa vie que pour une diarrhée infantile, évidemment. C'est un défi considérable, ce cumul de pathologies, et le système de soins et les systèmes sociaux plus globalement ne sont pas du tout préparés à ce terrible défi.
Alors on peut dire que le point commun, c'est l'absence d'anticipation, tant au niveau des infrastructures que d'ailleurs de la formation des soignants. Tout à l'heure, vous avez évoqué très rapidement les maladies mentales. Dans ce domaine, on peut dire qu'il y a un déficit de psychiatres qui est absolument effarant, également pour d'autres pathologies chroniques, prise en charge du diabète, prise en charge de l'hypertension, là aussi, un manque de spécialistes. Je ne sais pas qui peut réagir sur cette question, justement, de la formation des soignants, qui n'est pas aujourd'hui adaptée forcément à ce qui se passe sur le terrain en termes de pathologie, docteur Ousmane Ly.
Oui, on a un déficit de personnel formé. Mais par exemple, la faculté de médecine de Bamako, où je suis enseignant, produit des médecins en grand nombre aujourd'hui, et ils ne sont pas employés. C'est ça le problème. Il y a des médecins qui chôment au Mali. Et donc c'est ça qui est dramatique. Mais maintenant, quand je suis arrivé aussi au Congo, quand je regarde, mais il y a beaucoup de facultés de médecine, mais il n'y a pas de régulation. Et heureusement, fort heureusement, l'actuel ministre de la Santé du Congo est en train de réagir là-dessus parce qu'il a bien compris le problème que la qualité des personnes formées va permettre de donner un bon service aux citoyens. Et là, sur la question de la santé mentale, ça se pose vraiment réellement.
Quand les auditeurs de Priorité Santé appellent, on fait des émissions sur la santé mentale, ils nous disent il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de psychiatre. Et en plus, au niveau de la prise en charge, là, n'en parlons même pas. Et si jamais il y a quelque chose de vraiment grave, il n'y a pas de structure.
Mais c'est aussi surtout culturel. Souvent, même en tant que médecin, on a du mal à envoyer quelqu'un chez le psychiatre, chez le psychologue, parce que la maladie mentale, elle a aussi un effet social qu'il faut bien comprendre. Oui, par exemple au Mali, pendant la crise de 2012, où il y a eu beaucoup de problèmes, on a pas eu la présence d'esprit souvent d'envoyer les gens vers des psychologues, de prise en charge de psychologues. On le voit aussi le problème avec le virus Ebola au Congo et en Guinée où ça s'était passé, où la prise en charge psychologique n'avait pas été assurée pour beaucoup des cas parce que on n'a pas ça intégré dans nos cultures.
Gérard Salem, je voulais qu'on aborde la question de l'inégalité des soins. Tout à l'heure, vous disiez dans une même ville en Afrique, on a deux mondes différents. On va avoir des gens qui vont avoir les moyens et d'autres qui n'ont rien. Est-ce qu'il y a une offre de santé qui correspond au niveau social de chacun ?
Il y a deux mondes, il y en a peut-être plus que deux. Il y a vraiment de telles inégalités de couverture sanitaire, d'accès aux soins dans les villes qu'encore une fois, souvent des gens disent les villes sont favorisées. Oui, elles sont favorisées en moyenne, mais encore une fois, cette moyenne n'a aucune espèce de signification. Je reviens sur cette question du coût. Il y a un proverbe en français qui dit « la santé, ça n'a pas de prix ». Non, la santé, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et à force de ne considérer que le coût, on a oublié, notamment dans les villes africaines, et à cause d'un certain nombre d'organismes internationaux, comme la Banque mondiale avec les politiques d'ajustement structurel, que la santé n'était pas qu'une dépense, mais d'abord un investissement. Et que quand on traite, par exemple, l'hypertension d'un jeune homme adulte, le coût social du handicap ou du décès d'un chef de famille, par exemple, est énorme pour la collectivité, parce que on l'a éduqué, on l'a soigné, et au moment où cet homme serait ou cette femme serait en situation de restituer à la collectivité cet investissement, il se retrouve handicapé ou décédé. Et la mesure de ce coût social n'apparaît nulle part. On est comme si la santé était un bien marchand comme un autre. Il va falloir revenir absolument sur ce point parce que la santé est un des leviers du développement est à la fois cause et conséquence du développement.
Alors, pour que l'extérieur réagisse aux questions de santé, il faut parfois des événements dramatiques. C'est ce qu'on a connu, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, en Afrique de l'Ouest, avec la grande épidémie d'Ebola. Des épidémies qui reviennent de façon périodique en RDC. C'est ce qui s'est passé depuis une dizaine de mois. Deux épidémies différentes. D'abord, il y a eu la province de l'Équateur dans la zone de Mbandaka. Et puis, depuis presque deux mois environ, c'est ce qui se passe à la frontière ougandaise, dans la zone de Beni, dans le Nord Kivu. On va en parler avec vous, docteur Ousmane Ly. Péril épidémique en milieu urbain, en milieu rural aussi d'ailleurs avec Ebola. Vous travaillez précisément sur le recensement, l'évaluation numérique. Vous travaillez donc en RDC sur ces épidémies de maladies à virus Ebola. Pour décrire aux auditeurs comment ça se passe, avec quoi vous faites ce recensement et avec qui vous travaillez.
Merci bien. Nous travaillons avec le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, avec le soutien de l'ONG américaine PAF qui est à Seattle et puis une représentation au Congo à Kinshasa, PAF RDC. Alors, ce que nous avons fait principalement, c'est de permettre la mise en place d'un centre des opérations d'urgence. Dans ce centre des opérations d'urgence, nous nous sommes surtout intéressés à la visualisation des données de manière cartographique, c'est-à-dire on a fait en sorte que là où l'épidémie apparaît, on puisse pouvoir mettre les cas et les contacts des cas sur des cartes dynamiques qui permettaient et qui permettent même aujourd'hui aux décideurs de voir où est-ce que la maladie est exactement, où on peut voir la propagation de la maladie et prédire les tendances dans les zones où elle va se retrouver, ceci lié à la mobilité des populations dans ces zones.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, docteur Ousmane, on va envoyer les soignants sur le lieu qui a été recensé sur votre système numérique?
Tout à fait. Ce n'est pas que envoyer seulement les soignants, c'est que les soignants vont être envoyés quand il y a une épidémie quelque part pour juguler l'épidémie. Alors, on les envoie avec des outils qui vont leur permettre de transmettre l'information de données épidémiologiques sur le terrain de manière presque automatisée, parce qu'ils ont des smartphones avec eux, ils ont des systèmes de tablettes mobiles qui permettent vraiment d'envoyer ces informations, malgré les difficultés de communication que l'Internet ou autre, mais on trouve toujours des solutions pour pouvoir faire en sorte que ces données remontent en temps réel. Et ce qui est très intéressant, c'est le suivi des contacts, parce que avec Ebola, c'est ce qui est le problème. Donc, quand on fait ce suivi des contacts, on peut regarder où est-ce que ces contacts-là se déplacent et prédire demain ou prévenir si, par exemple, le contact se déplace vers une église ou une école ou un marché.
Des lieux à forte contamination.
Forte contamination, ce qui est la particularité des villes. Donc, ça permettra aux décideurs de prendre des dispositions très urgentes pour juguler l'épidémie.
Est-ce que vous pouvez dire, docteur Ousmane Ly, qu'on apprend à chacune des épidémies? Vous avez travaillé sur Beni, en ce moment vous y êtes, avant vous étiez sur Mbandaka. Est-ce que entre l'une et l'autre de ces flambées épidémiques, vous avez vu des différences?
Tout à fait. À Mbandaka, on peut dire que sur l'utilisation des outils numériques sur le terrain, on était à nos débuts, donc on a beaucoup appris. Et cette fois-ci sur Beni, on a déployé vraiment des outils qui servent. On a des tableaux de bord qui servent au ministère. Et encore mieux, aujourd'hui, la communication, elle est au cœur même de l'épidémie, de l'épicentre qui est à Beni, où aujourd'hui, tous les matins, le ministère de la Santé a une visioconférence avec les acteurs qui sont sur le terrain. Ces visioconférences ont été répétées avec le CDC d'Atlanta, avec l'OMS et avec la Banque mondiale dans le cadre de leur soutien par rapport à la lutte contre l'épidémie actuelle. C'est ce qui fait que l'utilisation des outils numériques revêt tout son sens pour pouvoir juguler de telles épidémies.
Florence Fournet, vous travaillez sur le paludisme. Vous aussi, est-ce que vous avez des moyens pour suivre l'évolution épidémique, même si là c'est différent parce qu'il y a le vecteur, le parasite? Comment on fait pour savoir où on en est par rapport à une pathologie aussi importante que le palu en milieu urbain?
Je dirais que c'est pas facile et qu'il y a très peu de systèmes de surveillance effectifs qui produisent des données, et que c'est bien dans cette direction-là qu'il faudrait essayer d'améliorer la collecte des données. Alors ça vaut évidemment pour les vecteurs, ça vaut aussi pour le parasite dans les cas, et s'appuyer uniquement sur le système de soins et fausse complètement la donne, puisqu'on a dit là déjà largement que tout le monde ne recourt pas au système de soins. Donc il faut vraiment mettre en place des systèmes, des stratégies dites intégrées, qui puissent suivre l'ensemble des acteurs de la maladie, et même aller un peu plus loin, c'est-à-dire éviter, ou en tout cas essayer de faire en sorte que ça ne cible pas que le paludisme, mais que ça puisse suivre d'autres maladies pour concentrer un peu les efforts et éviter de disperser en programmes verticaux, comme disait le docteur Lee tout à l'heure.
Gauthier Dominé, juste une question. Tout à l'heure, vous citiez la fièvre de Lassa. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en milieu urbain, dans les grandes villes africaines, des systèmes d'alerte? Il y avait eu, il y a moins d'un an, une épidémie au Nigeria qui allait jusqu'au Bénin. Est-ce que justement les populations peuvent être informées en milieu urbain? Quel recours justement pour la prévention dans ces cas-là?
Alors, pour la fièvre de Lassa, vous avez des systèmes au Nigeria qui commencent à se mettre en place quand même, des tentatives de systèmes d'alerte précoce, qui utilisent d'ailleurs pas mal les outils dont parlait le docteur Lee. Lassa est quelque chose qui revient chaque année, hein, c'était pas seulement l'année dernière, en ce moment au Nigeria il y a encore des cas, on arrive dans la période Lassa là, et c'est quand même malgré tout un peu difficile de suivre les cas. Là, on se heurte en fait à des maladies qui sont assez peu... finalement assez peu connu, assez peu documenté. J'ai presque envie de dire que Lassa est une petite Ebola. Hein. Ebola, il a fallu quand même du temps pour qu'on commence à se dire que c'était inquiétant et que ça pouvait et que ça prendra peut-être malheureusement des proportions nettement supérieures à ce qu'on a connu. C'est typiquement le cas de Lassa. Pour l'instant, c'est un peu une maladie hémorragique virale un peu orpheline pour tout ce qui est justement mise en place de systèmes d'alerte précoce et de réaction et de riposte. Là, on parle de la riposte des États parce qu'il faut que ce soit les États.
Parce que ce qu'on voit par exemple pour la fièvre de Lassa, c'est qu'il y a moins, on va dire, de contagions. Par contre, au niveau de la mortalité, le nombre est bien supérieur à ce qu'on a vu sur les 12 derniers mois, par exemple, pour Ebola, au niveau du Nigeria, au niveau de la mortalité.
Elles sont plus régulières, hein, elles sont annuelles. Il faut savoir que Lassa sévit officiellement, on va dire, chaque année au Nigeria, de façon, on parle de plusieurs centaines de cas et plusieurs dizaines de décès, voire davantage chaque année. Elle sévit également beaucoup en Guinée, Libéria, Sierra Leone. C'est là qu'on trouve le plus de cas en général. Alors ce sont des cas souvent associés à des zones rurales et à des camps de réfugiés. Alors on connaît assez mal hein, le nombre de malades. On parle parfois de 300 à 500 000 cas annuels avec autour peut-être de 5 000 décès. Mais ce sont vraiment des maladies qui nécessiteraient qu'on s'y intéresse davantage.
On aura l'occasion de s'y intéresser très prochainement dans Priorité Santé. Gérard Salem, vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait le docteur Lee.
Et à ce que disait Florence Fournet, parce que c'est une question clé, celle de l'observation et des systèmes d'alerte. Alors les programmes verticaux ont bien des mérites, mais d'une certaine façon, et bien souvent, ils vont contre les systèmes d'information courants et les systèmes d'alerte. Donc on réagit bien après la crise. Et je prendrai qu'un seul exemple. On est confronté dans la plupart des grandes villes africaines à de très importants phénomènes de pollution et de pollution de l'air. Nous n'avons aucune mesure des conséquences de ces pollutions de l'air. On commence juste à mesurer les qualités de l'air, mais on ne sait pas du tout, aucun dispositif ne permet de savoir ce que seront les conséquences de cette pollution de l'air, ou par exemple de la dégradation des plastiques, sur la santé des enfants, des tout-petits qui sont juste à hauteur de peau d'échappement. Donc c'est vraiment une question tout à fait essentielle et qui exige une organisation des systèmes d'information tournée vers les besoins, encore une fois, plutôt que par un seul enregistrement, j'allais dire administratif, de l'activité du système de soins.
Alors on arrive à la conclusion de notre émission, à conclusion avec un tour de table, avec une même question que j'ai posée à chacune et chacun d'entre vous. Est-ce que finalement la ville est un facteur aggravant ou une condition favorable en Afrique en matière de santé? Je vous donne d'abord la parole, Florence Fournet. C'est plutôt un bien ou c'est plutôt un mal pour la santé des populations?
La question est difficile.
Dans l'esprit commun, les gens pensent que c'est plutôt un bien. Donc je voudrais savoir si on va battre en brèche une idée reçue.
Ah, mais c'est sûr qu'il faut la battre en brèche, cette idée reçue, bien sûr. Après tout ce qu'on vient de dire là, on ne peut plus continuer de dire que les citadins vivent mieux que les ruraux, ça c'est clair. Maintenant, dans la mesure où ce mouvement est inéluctable, il faut s'attacher à faire en sorte que ces villes ne soient plus des villes délétères, comme on en a quand même quelque part l'image. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette double politique ville-santé et aussi mobiliser les populations elles-mêmes, parce que en les mobilisant, elles mobiliseront et on finira par avancer. On a déjà beaucoup d'exemples de sociétés civiles qui se créent et qui sont efficaces.
Précisément, est-ce que c'est justement le délitement de la communauté qui fait que vivre en ville, Gauthier Dobigny, c'est pas forcément bon pour la santé ?
Ah ben, en tout cas, ça peut devenir un frein à certaines interventions à base communautaire, oui. On disait tout à l'heure qu'il n'est pas facile de trouver des personnes ressources. Il y a une forme d'érosion parfois des mécanismes de solidarité sociale, en tout cas une compartimentation de ces mécanismes. Ça, ça peut constituer des freins à tous les systèmes d'alerte précoce, de recueil d'informations, d'éducation sanitaire au sens large. Donc ça, oui, ça peut devenir un vrai frein à une meilleure santé en ville, oui.
Est-ce que vous, justement, docteur Ousmane Ly, cet outil numérique que vous utilisez peut retisser un lien que, justement, l'éloignement de la communauté a mis à mal et, justement, permettre de mieux communiquer pour aussi mieux se soigner, être mieux pris en charge?
Oui, définitivement, pour nous, la santé numérique serait une solution pour combler un certain nombre de gaps. Parce que, comme vous le dites, la ville, c'est plusieurs villes dans la ville. La ville a plusieurs faciès, donc des bidonvilles aux quartiers huppés d'affaires, le problème ne se présente pas de la même manière partout. Mais ce que nous avons remarqué dernièrement, c'est que aujourd'hui nous pourrons mettre en place des systèmes d'alerte précoce basés sur les réseaux sociaux. Rien que les questions que les gens vont commencer à poser sur Facebook, Viber, quand j'ai la toux ou bien j'ai un rhume, on peut détecter une épidémie de rhume dans la ville, une épidémie de maux de tête qui peut être liée à une autre pathologie.
Comme une méningite, par exemple.
Tout à fait. Donc, pour nous, les outils numériques sont une chance de pouvoir changer la donne. C'est ce que je dis toujours. Si en Afrique, on avait, plus globalement dans les pays en voie de développement, on avait utilisé le potentiel de technologie de l'information et de la communication, on aurait pu atteindre les OMD dans beaucoup de pays. Alors, l'appel que nous faisons, c'est que les ministères de la Santé, que les acteurs, les partenaires au développement utilisent massivement aujourd'hui les technologies de santé numérique pour que nous puissions atteindre les ODD. On a une chance.
Ces objectifs du millénaire fixés par les Nations Unies, Gérard Salem, vous qui êtes également l'un des responsables de la Société internationale de la santé urbaine, le mois prochain, elle va tenir son congrès en Ouganda, c'est bien ça. Je vous pose également cette question de conclusion. Est-ce que la ville en Afrique est un amplificateur des défis en matière de santé, conditions aggravantes ou conditions favorables?
Amplificateur des défis, sans aucun doute. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on se méfie un petit peu de nos préjugés, nos idées préconçues. Et sur la ville et la santé dans les villes, nous n'avons que des idées préconçues. Ça date du Moyen-Âge où on qualifiait les villes de pestilentielles. On va dire en Afrique, les villes sont le lieu du vide social ou de la déstructuration, etc. C'est ça, mais c'est aussi beaucoup de facteurs positifs. Donc je pense qu'il faut surtout remettre en cause l'idée qu'il y aurait une santé urbaine. Ça n'existe pas, la santé urbaine. Les variétés de situations entre les villes et à l'intérieur des villes sont là pour le montrer. Il n'y a pas de déterminisme urbain. Et une ville bien aménagée, des modes d'urbanisation bien contrôlés peuvent avoir un impact positif sur la santé, mais réciproquement, on doit penser la santé comme un des facteurs du développement et des dynamiques territoriales positives. Donc c'est sur ce point-là qu'il faut travailler.
Investir dans la santé.
Investir dans la santé et dans le développement urbain et montrer les interrelations entre bonne dynamique urbaine et développement sanitaire.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé pour cette émission enregistrée à Marseille. Merci à vous, Florence Fou. Fournet, chercheur en entomologie médicale à l'Institut de recherche pour le développement. Dr Ousmane Ly, expert international en santé numérique, consultant pour l'ONG PASS, basé à Seattle aux États-Unis et à Kinshasa en RDC. Gauthier Daubigny, chargé de recherche à l'IRD, biologiste au Centre de biologie pour la gestion des populations de Montpellier. Vous, Gérard Salem, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, également professeur invité à l'Université de Berkeley en Californie. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Victor Hull qui a réalisé cette émission ici dans la cité phocéenne, à Ophélie Lassen qui l'a préparée de Paris. Priorité Santé reste à Marseille. Demain, nous parlerons des maladies tropicales négligées, toujours dans le cadre de cette 24e édition des actualités du Pharo, organisée par le groupe d'intervention en santé publique et en épidémiologie à l'hôpital de la Timone. Et Priorité Santé vous retrouve donc demain à Marseille.
C'était écoutez Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.